C'est une joie d'être ensemble, déjà de passer ce temps dans la louange. Je me réjouis vraiment chaque dimanche de ces temps bénis où on peut élever notre voix, louer, glorifier le Seigneur. Et c'est vraiment une richesse extraordinaire que vraiment qu'on ne s'habitue pas à ça. Je crois que on est béni par la louange, on se fait du bien, on se nourrit et que dimanche après dimanche, ce soit toujours une nouvelle découverte. Hein. Quand on ne connaît pas Dieu, qu'on n'a pas fait une rencontre personnelle avec lui, que Jésus ne s'est pas révélé dans notre vie, on peut avoir une image de Dieu, je dirais, qui va parfois d'une extrême à l'autre. On a des gens qui, pour eux, Dieu, c'est un peu le père fouettard, c'est le Dieu qui punit, c'est le Dieu des interdits. Ah oui, mais avec Dieu, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Et puis, si on va un peu de l'autre côté, c'est un bon Dieu. Il est bon, il est tellement bon que de toute façon, quand je serai là-haut, je m'expliquerai avec lui et puis tout se passera bien. Il y en a même qui sont allés jusqu'à chanter « On ira tous au paradis ». Oui, il n'y a pas de raison, il est tellement bon, de toute façon, qu'il aura bien pitié de moi. C'est pas du tout comme ça. Et quand on rencontre le Seigneur, il y a la vie est transformée. Et souvent dans les premiers temps, mais tout au long de notre marche chrétienne, on a des réflexes qui reviennent en disant, en tant que chrétien, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je n'ai pas le droit? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de penser ça? Est-ce que... Et puis, parfois, ça progresse un petit peu. C'est plus est-ce que j'ai le droit ou pas, c'est est-ce que je peux le faire ou je peux pas. Il y a toujours cette notion qui, en soi, n'est pas mauvaise, mais qui est cette question... et qui peut entraîner dans nos vies un côté légaliste, en fait, de dire, ben, je marche avec Dieu, donc j'ai le droit, je n'ai pas le droit, je peux, je ne peux pas. Il y a deux colonnes, il y a tout ce que je peux faire et tout ce que je ne peux pas faire. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser les questions, mais ça peut nous entraîner et nous écraser sous un joug qui est trop lourd à porter. Jésus a dit, prenez mon joug sur vous, et mon joug et mon fardeau est léger, et il ne nous appelle pas dans la marche chrétienne à ployer, à être écrasé par des obligations, ça je ne peux pas, ça je n'ai pas le droit, ça, et puis ça m'écrase, et ça m'écrase, et ça m'écrase, parce que plus je me dis que je n'ai pas le droit, et moins j'arrive à résister. Et je pense que la question ne se pose pas de cette manière-là. Mon comportement dépendra plutôt de la qualité de ma relation avec Dieu et surtout de ma connaissance de qui il est. Dans mes choix, dans mes pensées, dans mes actions, dans ma vie quotidienne. Et le thème de mon message ce matin, c'est la crainte de Dieu. Si Dieu est bon, et c'est vrai, nous le disons, nous le proclamons, nous le chantons, il est fidèle, il est rempli d'amour, alors pourquoi est-ce qu'il faudrait craindre un Dieu qui est immensément grand, qui est tout-puissant, faut-il le craindre ou ne faut-il pas le craindre? Alors je vais, en tout cas moi j'y réponds en ce qui me concerne, oui bien évidemment, parce que la Bible nous le dit, mais je pense qu'il faut le craindre de la bonne manière. Une mauvaise crainte va rendre notre marche triste, difficile, va même risque de nous éloigner de Dieu. Et au contraire, une bonne crainte de Dieu nous rapprochera de lui et rendra notre marche heureuse. Quand on lit dans beaucoup de textes de l'Ancien Testament, je vais faire référence, je les lirai pour une bonne partie, on ne va pas forcément tous les chercher, mais vous pouvez les noter si vous souhaitez. Dans l'Ancien Testament particulièrement, il est très souvent question de la crainte de Dieu. Et dans le livre de l'Exode au chapitre 20, quand Dieu va donner les commandements à Moïse pour le peuple, une des premières choses qu'il va lui dire, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. » C'est-à-dire qu'il y avait un avant et maintenant il y a un après. Parce que donner déjà des lois, des préceptes au peuple d'Israël, et on constate que la loi qui a été donnée à Moïse n'a pas été donnée quand le peuple était en Égypte, mais quand il était sorti de l'esclavage pour aller dans un pays nouveau, le pays que Dieu avait promis de leur donner, le pays d'abondance où coule le lait et le miel. Et un peu plus loin, on voit dans ce même chapitre que le peuple Effrayé dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Et puis au verset 20 de ce chapitre 20, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Il y a un passage dans l'Ecclésiaste aussi, au chapitre 12 et verset 15, qui dit ceci, « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Et on constatera, il y a beaucoup d'autres passages, j'en citerai d'autres tout à l'heure, mais la crainte de Dieu est très souvent citée, je l'évoquais, dans l'Ancien Testament, mais pas que. Et de toute façon, j'aime à le dire, le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu que le Nouveau Testament et le même Dieu que nous servons aujourd'hui. On a parfois tendance à compartimenter un petit peu et à dire « il y avait le Dieu du peuple d'Israël et le Dieu d'aujourd'hui, c'est le Dieu du 21e siècle ». Non, non, c'est le même. Et les exigences qu'il avait auprès du peuple d'Israël, bien évidemment, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, mais c'est le même Dieu que nous servons. Et cette crainte de Dieu, elle est utilisée parfois en impératif, c'est-à-dire qu'on le voit dans l'Ecclésiaste, c'est « crains Dieu hein, »,« crains Dieu », »,« craignez Dieu », souvent c'est utilisé. Et très souvent, quand c'est utilisé à l'impératif, c'est étroitement lié à la notion de nous préserver du péché. Hein, ici, il est question de « crains Dieu et observe ses commandements ». Et derrière, c'est « Dieu amènera toute œuvre en jugement », c'est-à-dire qu'il nous met face à nos responsabilités, face au péché. Et puis, c'est aussi un moyen de nous rapprocher de Dieu et d'être au bénéfice de ses nombreux bienfaits. On va le voir tout à l'heure dans la deuxième partie, le fait de craindre Dieu est une source de bénédiction dans beaucoup de domaines de nos vies. Et pour ceux et celles qui veulent marcher dans les voies de Dieu et lui être agréable, la crainte de son nom n'est pas, je pense, une simple recommandation ou un choix, c'est une nécessité. Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous ne sommes plus esclaves du prince de ce monde. Quand on passe de notre ancienne vie, qu'on rencontre Jésus-Christ, notre vie est transformée. Et on est à l'image de ce peuple d'Israël qui était sous la servitude de Pharaon et qui a été libéré pour entrer dans un nouveau pays. Et nous sommes passés nous-mêmes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous sommes devenus serviteurs non plus d'un tyran, serviteur d'un bon et tendre maître, notre Seigneur, mais qui a quand même ses exigences. C'est pas « il est bon, donc je fais ce que je veux, et puis après, ben, je m'arrangerai avec lui quand je serai amené à le rencontrer ». Il a ses exigences. Dans Deutéronome, au chapitre 6, les versets 1 et 2, Moïse parle au peuple, et il leur dit ceci, « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. » Pourquoi il les a donnés ? Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Ça, c'est la première chose. Donc, en marche pour le royaume de Dieu. Deuxièmement, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Alors, je le disais, il n'est pas question pour nous de nous remettre sous la loi que Dieu a donnée à Moïse pour le peuple d'Israël. Jésus-Christ est venu accomplir la loi à notre place et nous sommes au bénéfice de la grâce, la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais il est question de mettre en pratique les règles du royaume de Dieu dans lequel nous sommes entrés. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, on va le lire ensemble. Paul évoque la nécessité justement de se mettre à part, et je trouve que ça fait vraiment écho à ce texte que nous venons de lire dans le Deutéronome, enfin que je viens de lire, dans 2 Corinthiens, chapitre 7. On va même lire on va prendre au chapitre 6 à partir du verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 14, Paul écrit ceci, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il cite ici un texte d'Ésaïe. Il est bien question de séparation. Quand on fait le parallèle avec le peuple d'Israël, c'est une ancienne vie d'esclavage et on sort de l'esclavage quand on rencontre Jésus-Christ et on est amené à se séparer de ce qui est impur, à se séparer de notre ancienne vie. Et donc le premier verset qui suit, chapitre 7, verset 1, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, qu'est-ce qu'on doit faire? Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification, et de quelle manière? Dans la crainte de Dieu. » Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous en achevant notre sanctification. Ça a été rappelé tout à l'heure par Robert au moment de la Sainte Cène. Au moment de notre conversion, nous sommes instantanément purifiés. Nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés. Là-dessus, nous ne devons avoir strictement aucun doute. Parce que quand on reconnaît notre péché, notre misère devant Dieu, qu'on accepte le salut de Jésus-Christ, l'œuvre de purification dans nos vies, elle est instantanée. Mais on a hérité aussi d'une ancienne vie et de choses qui peuvent encore nous tenir et nous sommes amenés à marcher dans une nouvelle vie, dans un nouveau royaume. Je suis en route pour un nouveau pays libre de l'esclavage. Mais je ne peux pas vivre dans le royaume de Dieu de la même manière que je vivais avant de connaître Christ. Si je suis un voleur, je fais une magnifique rencontre avec Christ, j'ai une conversion authentique, est-ce que je continue à voler derrière? Non. J'ai bien, ma vie est vraiment transformée, Christ a pardonné mon péché, je suis vu aux yeux de Dieu comme étant juste. La justification, c'est Dieu me voit comme si je n'avais jamais péché, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais si je continue à pratiquer ce que je pratiquais avant, si j'étais menteur, que je continue à mentir, j'étais tricheur, j'étais, je ne vais pas travailler à ma sanctification. Et ce texte de Paul aux Corinthiens, qui dit « Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair en achevant notre sanctification », c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Je n'ai pas à achever ce que Dieu a parfaitement accompli, ça c'est accompli, mais je dois, dans ma marche avec lui, continuer à travailler, à garder cette vie pure devant lui. Et c'est ce que Paul enseigne ici aux Corinthiens. Alors comment être dans la bonne crainte de Dieu? Je crois que d'abord, il faut réaliser pleinement et comprendre qui est Dieu. Alors là aussi, hein, on ne va pas se mettre la pression, tant qu'on est sur cette terre, de toute façon, on n'en aura qu'une compréhension très partielle, mais ça n'empêche pas de chercher jour après jour qui il est, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à le découvrir. Il est le créateur de toutes choses, il est au-dessus de tout, il est souverain. Souverain, ça veut dire que toutes choses lui sont soumises. Rien ne se passe qu'il ne le permette. Il est amour, on le dit souvent, mais une de ses principales caractéristiques, même s'il y en a beaucoup, c'est que Dieu est saint. Dieu est saint. Alors on entend parfois dans notre jargon, et moi je l'ai dit aussi tellement souvent, il est trois fois saint. Je voudrais juste apporter une petite précision. Quand on est saint, qu'on soit saint ou deux fois ou trois fois ou 50 fois saint, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'en Dieu, il n'y a pas un atome, il n'y a pas trace de péché. Il est tout entier saint. Donc, quand on prend ce texte, notamment d'Ésaïe, qui a une vision où les anges se crient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel,
Il n'est pas question de dire qu'il est trois fois saint, c'est une proclamation, comme si je disais puissant, puissant, puissant est l'Éternel. Il n'est pas trois fois puissant, il est puissant, point final, il peut tout faire. Hein? Et donc cette notion-là, je crois qu'elle est importante pour aussi réaliser que sa sainteté est en totale opposition avec le péché et en totale opposition avec notre nature pécheresse. Et on ne peut même pas imaginer son niveau de sainteté, notre intelligence est bien réduite. Et les choses nous seront révélées quand nous serons avec lui, mais on peut chercher et lui demander aussi de nous révéler ces notions de sainteté, de qui il est réellement. Quand je citais tout à l'heure la rencontre de Moïse avec Dieu sur le mont Sinaï, et chapitre 24 d'Exode, au verset 15, « Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. » Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. On le lit notamment dans l'Exode, quand Dieu apparaissait, c'était un éclat qu'on ne pouvait absolument pas supporter, bien plus éclatant que l'éclat du soleil, qu'on n'arrive déjà pas à regarder droit dans les yeux. Et la sainteté de Dieu, c'est peut-être comme ça qu'on peut l'imaginer. C'est un éclat qui nous dépasse et qu'on ne peut même pas visualiser. Et il est tellement saint qu'il manifeste aussi sa colère à l'égard du péché. Ça, c'est quelque chose qui m'a souvent questionné quand j'étais plus jeune, parce que ce Dieu qui est si parfait, qui est amour, qui est compatissant, comment peut-il se mettre en colère? Nous, on voit la colère comme étant un défaut, donc Dieu aurait-il des défauts? Mais non, bien évidemment, Dieu n'a pas de défaut. Sa colère est manifestée à l'égard du péché, c'est-à-dire qu'il y a une telle opposition par rapport au péché qu'il manifeste, il peut manifester, il a le pouvoir de punir ceux et celles qui vivent dans le péché, mais à l'inverse, il manifeste la grandeur de son amour et de son pardon à ceux qui viennent à lui avec un cœur repentant. Il est patient, il manifeste sa grâce, et je le disais, nous sommes au bénéfice de cette grâce. Et viendra le temps du jugement où chacun devra rendre compte devant lui. Et cette colère, on la retrouve dans différents passages. Moi, j'ai noté Ésaïe au chapitre 12 et au verset 1. Ésaïe dit ceci: « Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. » Dieu pourrait se mettre en colère contre nous. Je crois que quand nous avons rencontré Christ, que notre vie a été changée, nous n'avons plus d'excuses. Je pense que Dieu est patient, il manifeste sa patience, et particulièrement pour ceux et celles qui ne sont pas venus à la connaissance de la vérité. Quand on a connaissance de la vérité, de qui il est, et qu'on a sa parole, oui, il peut arriver que Dieu se mette en colère. Il peut arriver que Dieu se mette en colère. Et ça doit être quelque chose aussi qui nous amène dans la crainte de Dieu. Mais sa grâce se manifeste, et sa colère ne dure pas toujours. Notre frère le disait ce matin dans sa prière, il est lent à la colère. David écrivait dans le psaume 103, verset 8, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère. » Être lent à la colère, ça veut dire que oui, il peut se mettre en colère, mais il patiente encore. Et il est riche en bonté, il ne conteste pas sans cesse, et s'il vient à se mettre en colère, alors il ne garde pas sa colère à toujours. Et je trouve que ces textes-là sont magnifiques parce qu'ils sont dans l'ancienne alliance, mais ils manifestent déjà la grâce de Dieu pour nous. Ils manifestent déjà de manière prophétique la grâce de Dieu. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent. Autant les cieux sont élevés de la terre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin qui est capable de mesurer la hauteur des cieux au-dessus de notre tête, mais je crois que ça monte très très haut. Eh bien, autant les cieux sont élevés, autant sa bonté est grande. Amen. Et puis, il y a une caractéristique de Dieu.
Là encore, on dit, mais Dieu, il est parfait. Et pourtant, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Dieu ne supporte pas qu'on puisse servir deux maîtres à la fois. Et là aussi, on le voit dans la marche du peuple d'Israël, la colère de Dieu s'est souvent manifestée en raison de leur désobéissance et particulièrement de leur idolâtrie. De leur idolâtrie parce qu'ils allaient auprès d'autres dieux que le Dieu véritable, que leur Dieu qui les avait fait sortir. Et Dieu est même allé jusqu'à permettre la déportation à Babylone parce qu'il rappelait à l'ordre, il rappelait à l'ordre et sans cesse le peuple se détournait pour servir d'autres dieux. Et il en est de même pour nous aujourd'hui. Dieu ne veut pas des cœurs partagés, mais des cœurs tout entiers pour lui. Dans Exode chapitre 34, verset 14, il est écrit ceci dans les commandements, tu ne te prosterneras point. Devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Il porte le nom de jaloux, on cite souvent dans la Bible, dans les textes originaux en hébreu, il y a différents noms qui sont donnés pour Dieu. On cite souvent El Shaddai, notre frère Corneille dans sa prière, citait ce matin des noms qui sont donnés à Dieu. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Adonai, qui représente la seigneurie, la souveraineté de Dieu, mais on n'entend pas souvent, et moi je cite jamais, le nom, l'Éternel porte le nom de jaloux. Et il y a un terme qui est utilisé spécifiquement seulement pour Dieu, qui est dans le texte hébreu « kana » et qui signifie « Dieu jaloux ». Alors c'est vrai qu'on préfère regarder le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Seigneur, bien évidemment, mais le Dieu jaloux, c'est peut-être pas spontanément ce qui nous vient à la bouche ou à l'esprit. Dans Deutéronome, chapitre 6, verset 13, « C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu craindras, c'est lui que tu serviras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne suivrez pas d'autres dieux parmi les peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. » Et Dieu qui est notre Créateur, il nous a créés pour être en communion avec lui. Et quand on est entré dans son royaume, quand on est enfant de Dieu, alors il nous vaut pour lui et pour lui seul. Alors bien évidemment, on n'en est pas à se faire des images taillées, enfin je l'espère, et des statues à se prosterner devant. Mais dans notre vie quotidienne, qu'est-ce qui pourrait passer devant Dieu ? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on serait amené à servir d'autre chose que servir Dieu ? Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, même dans notre service pour lui. Notre service ne doit pas passer avant Dieu. Nous servons Dieu et lui seul, et notre vie doit être tout entière pour lui. Alors, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, et une des conséquences, c'est que derrière, ça doit engendrer pour nous une marche et une considération. Et nous devons, bien évidemment, marcher avec respect et l'honorer. Et c'est ça qui doit motiver notre vie avec lui. Le fait de savoir que Dieu est un Dieu juste, qu'il est saint, qu'il est jaloux, qu'il jugera l'humanité, qu'il nous jugera, doit nous pousser à avoir un comportement au quotidien, comme s'il était présent à côté de nous. Et la crainte de Dieu nous amènera naturellement, à ce moment-là, à nous opposer au péché sous toutes ses formes et avec une grande détermination. Si nous gardons à l'esprit qu'il est saint, qu'il est jaloux, qu'il est juste, je le disais, les notions de crainte de Dieu sont souvent utilisées comme un garde-fou contre le péché. Dans Proverbes chapitre 16, verset 6, il est écrit « Par la crainte de l'Éternel, qu'est-ce qu'on fait ? On se détourne du mal. » Proverbe chapitre 8, verset 13, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Proverbe encore, chapitre 14, verset 27, « La crainte de l'Éternel, c'est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Oui, c'est la crainte de Dieu doit entraîner dans nos vies un processus de maintien de la sanctification que j'évoquais tout à l'heure. La crainte de Dieu va me dire non, là c'est le mal, je me détourne du mal. Et plus je vais entrer dans cette crainte et dans cette bonne crainte de Dieu que je vais développer un petit peu plus tard, et plus je vais être heureux de le servir. Non pas comme je dois, je ne dois pas, c'est une obligation, est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? Non, j'ai envie de te plaire Seigneur. Alors je me détourne du mal. Un des derniers textes de la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 22 verset 11, donc c'est le dernier chapitre de la parole que Dieu nous a laissée. Il écrit ceci, car le temps est proche, il est question du retour de Jésus. Alors vous allez me dire, bah attendez, ça fait quand même plus de 2000 ans qu'ils ont écrit ça, si c'était proche. Dans notre esprit, le temps doit être proche, comme si le Seigneur revenait là, dans quelques secondes. Et c'est ça que nous devons garder à l'esprit. Oui, le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ben, si je suis saint, pourquoi est-ce qu'il faut que je me sanctifie? Je crois que c'est cette notion de marche que j'évoquais, et de ne pas pratiquer le mal. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et ce texte nous montre clairement qu'il n'y a que deux catégories de personnes. Il y a ceux qui pratiquent l'injustice et qui se souillent, et ceux-là sont séparés de Dieu par leur péché, et ceux qui ont reconnu Jésus comme sauveur et qui persévèrent dans leur marche avec lui en recherchant la sanctification. La crainte de Dieu nous pousse à haïr le péché et à nous détourner du mal. Elle aide à veiller sur nos pensées et sur nos paroles. Bien évidemment, quand il est question que ceux qui pratiquent l'injustice et qui se souillent encore, ce n'est pas une plaidoirie pour dire « continuez ». C'est-à-dire que c'est pour dire, bien évidemment, Dieu appelle chacun à la repentance. Mais ne nous y trompez pas, je ne peux pas vivre une vie de souillure, pratiquer le péché et paraître devant Dieu en faisant comme s'il ne s'était rien passé et que tout va bien. Sa grâce se manifeste encore, je l'ai dit et je le redis, pour ceux et celles, si bas qu'on soit tombé, ceux et celles qui s'approchent de lui repentant, alors bien évidemment, il ôte le péché, il purifie, il justifie. Nos actions sont inévitablement liées à nos pensées. Si nos pensées sont tournées vers le bien, alors nous pratiquerons le bien. Si nos pensées sont tournées vers le mal, nous pratiquerons le mal. Et si nous vivons dans la crainte de Dieu, comme étant une règle, une obligation, un dogme religieux, en disant « Ah, je suis devenu évangélique », alors déjà, ça commence mal. Je n'ai plus le droit de me saouler. Je n'ai plus le droit de voler. Là, il faut revenir un petit peu plus lourd. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises et il y a besoin vraiment de reconnaître son péché et sa souillure. Mais si je suis dans cette crainte de « je dois, je ne dois pas, je n'ai pas le droit », alors c'est quelque chose qui va être pesant sur nos vies. Ça va être une oppression, ça va être une vie triste parce qu'on ne va jamais se sentir capable. Et on va être accusé par le malin dès qu'on va faire un pas de travers. « Ah, tu vois, tu n'es même pas capable. Ah, tu vois, tu n'as pas été capable de dire la vérité. » Et c'est l'accusation qui vient. Alors bien évidemment, quand on se repent une fois de plus, Dieu nous sort de cela. Mais je crois que la bonne crainte de Dieu, c'est de ne plus vivre dans la peur, et la peur se transforme en envie. C'est soit j'ai peur de ne pas tenir, j'ai peur de continuer à faire le mal, j'ai peur de la tristesse, même si en soi c'est pas mauvais. Et plus je vais me rapprocher de lui, plus je vais connaître qui il est, plus je vais reconnaître sa sainteté, et cette peur, elle va se transformer en envie. J'ai envie de lui plaire. J'ai envie de lui être agréable. J'ai envie d'avoir son approbation sur ma vie. Et là, c'est une marche qui est heureuse. C'est comme un couple d'amoureux. Bien évidemment, on va veiller à ne pas blesser. on va veiller à ne pas faire de mal, mais c'est l'envie qui doit bouillonner dans le cœur, l'envie de rendre l'autre heureux, l'envie de lui plaire. Et c'est dans cette dimension que nous devons vivre la crainte de Dieu. Est-ce que j'ai peur de Dieu? Ou est-ce que je suis rentré dans une relation avec lui, une connaissance de qui il est, qui m'amène à avoir envie, envie de lui plaire, envie de lui être agréable? Alors, je l'évoquais tout à l'heure, la crainte de Dieu, cette bonne crainte, elle est source de bénédiction. J'en ai cité ici, je vais en citer pardon, quelques-unes, mais vous en trouverez beaucoup d'autres dans la parole. La crainte de Dieu, c'est un appui. C'est un appui pour nous, c'est un appui pour nos proches. Dans Proverbes au chapitre 14, verset 26, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Je crois que là, ça prend une dimension aussi, bien évidemment, le rôle d'un papa, d'une maman dans un foyer, c'est d'être une protection pour les enfants. Mais ça prend aussi une dimension spirituelle. Quand dans le foyer, le papa, la maman a cette crainte de l'Éternel, ça se remarque, c'est un témoignage déjà pour les proches, pour ses propres enfants, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Psaume chapitre 115, versets 13 et 14, il est question de Dieu, « Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. » Il y a là aussi une action, non pas que les enfants, je l'ai déjà évoqué, moi j'ai eu le privilège de naître et mes parents étaient chrétiens, convertis, engagés avec Jésus-Christ. Et c'est bien parce qu'eux étaient chrétiens que ça faisait de moi un chrétien, ça j'ai réalisé très vite. Et d'ailleurs dans mon cœur il y avait cette crainte au sens de la peur de Dieu. Parce que je n'étais pas dans cette relation. Je savais que c'était le Dieu de mes parents. Je savais, voilà, il m'avait enseigné. Mais dans mon cœur, il y avait de la peur. Parce que tant que je n'avais pas fait cette rencontre avec lui, c'est de la peur qu'il y avait. Et ici, il n'est pas question de dire, si les parents sont chrétiens, les enfants, automatiquement, vont être chrétiens. Non, il est question aussi d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu qui craint l'Éternel. Et ses enfants derrière sont à la bénédiction de ces parents-là. Un appui pour nous et pour nos proches. La crainte de Dieu, c'est aussi une providence et c'est aussi le contentement. Psaume, chapitre 34, verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, les saints ce sont ceux qui sont rachetés de l'Éternel, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alors, j'ai dit la providence, la bienveillance de Dieu, mais pour moi, ça va plus loin que ça, c'est aussi le contentement. Parce que si je rentre dans un comportement de dire, « Ok, j'ai bien compris que si je crains Dieu, alors il va me donner et je ne serai privé d'aucun bien, donc je vais commencer à lui faire la liste, et plus je vais craindre Dieu, et plus il va me bénir de toutes sortes de bénédictions matérielles. » Mais je crois que là encore, c'est ce que j'évoquais, la crainte de Dieu doit être intimement liée à la connaissance et à l'intimité que j'ai avec Dieu. Et plus je vais être en cœur à cœur avec lui, plus je vais connaître sa volonté, et plus je vais apprendre à me contenter, à être dans le contentement. Merci Seigneur. Paul disait, j'ai appris à le remercier dans l'abondance comme dans la disette. Et là, bien évidemment, Dieu pourvoit. Oui, Dieu est le Dieu qui pourvoit. Craignez l'Éternel, car rien ne manque à ceux qui le craignent, parce qu'il donne le nécessaire. Mais il apprend aussi, et il nous apprend le contentement, et ne pas être dans l'insatisfaction permanente, à vouloir, ouais, j'ai ça, et puis après je voudrais ça. Et puis après, ça ne me suffit pas, il me faut encore autre chose. Non. La crainte de Dieu est source de bonheur, de joie, bien évidemment, la joie du salut. Ecclésiaste au chapitre 8, les versets 12 et 13. Là aussi, je pense que c'est une belle annonce prophétique de la grâce que nous avons en Jésus. Cependant, quoi que le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi, je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'y a pas la crainte devant Dieu. Quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère, je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. On a ici un équilibre parfait. Autant de fois je peux tomber parce que je suis dans un corps charnel et que je peux encore avoir sur cette terre des moments où, oui, je chute. Mais autant de fois, le Seigneur va me relever. Quand il est écrit « Quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, et même s'il y persévère pendant un certain temps, le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu », c'est-à-dire dès l'instant où j'ai réalisé que j'étais pécheur, que j'ai compris qui était Dieu et que je le crains, et que j'accepte la repentance, alors oui, je rentre dans son bonheur, je rentre dans la joie du salut, dans quelque chose qui est extraordinaire. La crainte de Dieu, c'est une protection face au danger. Psaume chapitre 34, verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Là aussi, on pourrait, je ne vais pas tout développer, mais on voit que la crainte de l'Éternel, si elle suscite en nous une marche complètement différente de la marche que nous avions avant de le connaître, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, ça veut dire que je ne vais pas non plus aller mettre mes pieds n'importe où et dire « De toute façon, l'ange de l'Éternel campe autour de moi, donc je fais tout et n'importe quoi. » Non, parce que je ne suis pas à ce moment-là dans la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu m'amène, là encore, dans un mode de vie, dans des choix où je vais être dans la soumission et dans le plan de Dieu. Et s'il m'arrive d'être en danger, alors il m'arrache au danger, parce que je crains son nom. Et c'est une protection magnifique. Souvent, je dis que si on voyait les anges de l'Éternel, si on voyait sa main autour de nos vies au quotidien, on serait peut-être étonné s'il nous montrait par photo ou par film chaque fois que sa main a été là pour nous préserver du danger. Mais on serait confondu. On serait confondu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est une direction de Dieu dans les décisions que nous devons prendre. Psaume chapitre 25, verset 12. « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. » Là encore, hein, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Si je crains Dieu, quelle est ma réaction quand je suis amené à faire un choix ? Est-ce que je me précipite en me laissant conduire par mes envies, par ce qui me plaît, ou est-ce que je dis non, je sers un Dieu vivant, alors je vais prendre le temps de le consulter, je vais prendre le temps de me tenir devant lui, de chercher sa volonté, et à ce moment-là, l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir. Et notre âme repose dans le bonheur, parce que c'est une tranquillité où le Seigneur a conduit les choses, et on sait qu'on est dans son plan. La crainte de l'Éternel, c'est la compassion, c'est l'amitié de Dieu. Psaume chapitre 103, verset 13. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Et puis chapitre 25, verset 14. « L'amitié de Dieu est pour qui ? L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. » Vous savez, pour qu'il y ait amitié, il faut qu'il y ait consentement entre deux personnes. Moi, je peux décréter être ami de quelqu'un. S'il n'est pas au courant et qu'il ne me connaît pas, il va dire, bon, il est gentil, Daniel Teller, il déclare qu'on est amis. Et je peux décréter que je suis ami de Dieu, qu'il est mon ami, mais il faut qu'il y ait consentement entre les deux. Et l'amitié de Dieu, c'est quelque chose de fort. Il faut que Dieu me connaisse bien, il faut que je connaisse bien Dieu pour qu'il y ait cette réelle amitié. Et puis, une dernière bénédiction, il y en a d'autres, mais je m'arrêterai là, sur la crainte de Dieu, la science et la sagesse. Je crois qu'on est dans un monde où les choses vont vite, on fait des découvertes magnifiques, et merci à Dieu pour l'intelligence qu'il donne aux hommes. Mais la connaissance et la sagesse des hommes, on le voit dans beaucoup de domaines, particulièrement dans la sagesse des hommes est loin d'être la sagesse de Dieu. Et dans les Proverbes, il est très souvent question de la sagesse. Proverbes chapitre 1, verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Et au chapitre 9, verset 10 des Proverbes, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » C'est la crainte de l'Éternel. Beaucoup d'autres textes dans les psaumes, dans les proverbes, nous parlent vraiment de toutes ces bénédictions qui découlent de la crainte de l'Éternel et qui doivent aussi nous donner envie de rentrer dans cette bonne crainte, dans cette envie, non pas dans la peur, non pas dans quelque chose qui pèse. Si nous voulons grandir dans la bonne crainte de Dieu, alors il nous faut chercher chaque jour et sans cesse à mieux le connaître. Qui il est réellement, quelle est sa vraie nature. Je dirais que la crainte de Dieu, c'est comme le tuteur pour la plante. C'est ce qui va nous permettre de grandir droit, de ne pas partir dans tous les sens. Je disais tout à l'heure, c'est un garde-fou. C'est ce qui va aussi nous éviter de tomber dans le péché. Il est indispensable d'entretenir avec lui, avec Dieu, une vraie relation intime. Non pas une religion. Ce qui compte, ce n'est pas d'être devenu évangélique, c'est d'être devenu enfant de Dieu. De chercher à lui faire plaisir, de l'honorer, de laisser sa parole, de laisser son esprit travailler nos cœurs. Et on prendra pour conclure un dernier passage ensemble, si vous voulez bien, dans les Proverbes. Proverbes au chapitre 2. Proverbes chapitre 2, les versets 1 à 5. Mon fils, on peut rajouter ma fille, hein. Ça marche aussi, je vous le garantis, pour les femmes. Hein. Mon fils, mon enfant, ma fille, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, ça parle hein, des fois. Hein. Si on cherchait la sagesse, l'intelligence comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors qu'est-ce qui se passera? Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Alors que nous puissions entrer dans cette belle crainte de Dieu, non pas quelque chose qui va nous rendre tristes, mais au contraire, qui va nous dire, moi j'ai envie de connaître ce bon Père Céleste, j'ai envie de savoir encore plus, d'avoir plus la révélation de son amour pour rentrer dans cette bonne crainte, cette envie de lui plaire, d'être agréable, d'avoir une vie sainte, de travailler à ma sanctification et de ne pas être confus le jour où viendra nous chercher. Amen. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as laissée. Merci parce que elle est riche et elle nous dévoile tellement la nature de qui tu es, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit, Seigneur, pour comprendre chaque jour, non pas de manière intellectuelle, mais avec notre cœur, Seigneur, qui réellement tu es. Ce Dieu infiniment grand, ce Dieu saint, ce Dieu jaloux, mais ce Dieu juste, bon et compatissant, lent à la colère. Merci Seigneur, oui, de te révéler par ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Que nous puissions, Seigneur, nous laisser sonder par toi, que nous puissions nous laisser convaincre par toi, que nous puissions te laisser façonner encore nos vies chaque jour pour t'être agréable, pour être ce parfum agréable qui te réjouit. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Amen.